2007. Deux jours après l'adoption du volet principal, via le recours à l'arme du 49-3, c'est la fin d'un premier marathon parlementaire acharné. L'opposition est plus que jamais vent debout, la gauche dénonçant une mascarade. Dans la rue, pendant ce temps, quelques milliers de personnes ont défilé dans plusieurs villes pour réclamer le retrait de cette réforme des retraites. Enfin, Michel Platini, l'ancienne vedette du football français, devenu patron de l'UEFA, débouté par la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour a jugé que sa suspension en 2015 de toute activité liée au football pendant 4 ans était justifiée. C'est la fin du journal. Merci d'avoir écouté.
Radio G. 101.5 FM.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue à l'écoute de l'oreille curieuse sur le 101.5 de Radio G. C'est la quotidienne des actualités culturelles et locales. Nous sommes jeudi et le jeudi, on retrouve la chronique d'étoiles plein les yeux avec Margot. On parle de cinéma, salut Margot.
Salut Annie, bonsoir à tous. Eh bien ce soir, on va parler du maître du suspense.
J'avais presque envie de dire c'est qui, mais je dirais pas. On va parler avant ça, parce que ce sera en seconde partie d'émission de théâtre avec la compagnie Il est doux de faire les fous, dont vous retrouverez bientôt une lecture théâtralisée. Je ne vous en dis pas plus, puisqu'on va en parler ensemble. Et pour cette émission, je suis aussi accompagnée de Marine. Bonsoir Marine.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Et c'est toi qui mène l'entretien, je te laisse présenter tous nos invités.
Bonsoir, ce soir nous accueillons la compagnie Il est doux de faire les fous, comme tu viens de le dire Anne-Lie. Jeune compagnie angevine créée en 2017 par Julie Amand. Bonsoir Julie.
Bonsoir.
Et créée aussi par Jean-Baptiste Breton. Bonsoir Jean-Baptiste.
Bonsoir.
Et vous êtes tous les deux accompagnés ce soir d'Eva Besnier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes comédienne.
C'est ça.
Et vous allez présenter la semaine prochaine, le dimanche 8 mars, à la médiathèque Toussaint, une lecture d'une pièce de Madame de Villedieu, Le Favori. Cette prestation s'inscrit dans un cycle de lecture théâtralisée que vous avez appelé Pelle. Pelle comme l'outil pour, je vous cite, déterrer les comédies classiques. Puisque vous avez sélectionné pas moins de 16 comédies classiques, écrites toutes par des femmes, que vous proposez en lecture. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en lumière des comédies classiques écrites par des femmes, tout simplement ?
Moi j'ai fait des études littéraires et puis après mes études au conservatoire et je connaissais pas de textes classiques écrits par des femmes. J'ai d'abord pensé qu'il y en avait probablement pas ou très peu parce que c'était compliqué pour une femme d'écrire pendant très longtemps. J'ai quand même cherché et en cherchant j'ai vu que en fait il y en avait beaucoup, vraiment beaucoup beaucoup et je me suis dit que peut-être elles étaient pas bien. Peut-être elles étaient mauvaises, mais non, il y en a qui sont très très bien, il y en a des mauvaises aussi, hein, comme pour les hommes, avoir un sexe féminin ne nous rend pas bonne écrivaine, mais il y en a des très très bien, et on trouvait ça dommage qu'elles ne soient pas connues ni étudiées, autant en littérature que pour les élèves de théâtre, et on s'est dit que c'était une bonne occasion de faire découvrir un certain panel d'autrices.
Et alors comment justement vous les avez sélectionnées, ces pièces-là ?
Alors c'est d'abord les textes qui nous ont plu, donc c'est un choix personnel. Et on s'est centré sur les comédies parce que ça passe plus facilement en lecture et que c'est léger et qu'on aime bien les comédies aussi tout simplement. Donc ça rentre encore une fois dans le choix personnel. Oui voilà, après c'est des pièces qui parlent beaucoup d'amour, qui parlent de mariage parce que c'est des comédies, pas toutes. Oui c'est ça, c'est les pièces qui nous ont plus qui nous semblaient de qualité mais aussi qu'on aimait bien.
Oui, c'est pas forcément strictement les plus drôles. Enfin, il y en a qui sont vraiment drôles. Enfin, ça va de la grande comédie en alexandrin à la grosse farce poète. Mais l'objectif n'était pas forcément de recueillir les plus drôles. C'était là où on entendait, où on distinguait vraiment une voix, une écriture, etc. Et il y avait aussi un choix thématique qui est que il y avait plein de pièces sur des thèmes compliqués, soit des querelles religieuses anciennes dont on n'a plus du tout idée, ou de la satire politique dont on n'a plus le référent, des choses comme ça.
Et donc le favori que vous allez jouer dimanche 8 mars à la médiathèque Toussaint, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du propos de la pièce ?
Oui, alors la pièce parle de Moncade. Moncade, c'est le favori du roi. Et Moncade est très malheureux, alors qu'il est le favori du roi, donc il devrait être heureux normalement. Il a tout ce qu'il veut. Et son malheur lui vient du fait qu'il ne sait pas si on l'aime pour lui-même ou simplement parce qu'il est le favori du roi, si tout ça est de l'hypocrisie sociale en fait, ou si c'est sincèrement qu'il est appréciable. Et tant et si bien, il fait la tête que le roi décide de le disgracier. Ce qui va lui permettre de se rendre compte s'il a vraiment des amis ou non.
Et en parallèle, c'est aussi une pièce qui parle d'amour. Il y a une histoire d'amour au milieu de tout ça. Donc Eva Bessien, vous jouez cette pièce dimanche prochain. Oui. Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement dans ce texte ?
Alors déjà, c'est un texte en alexandrin. C'est très bien écrit, c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup jouer les pièces en alexandrin parce que je trouve que c'est un défi en plus. C'est pas un langage qui nous est proche de base. Du coup, je trouve que c'est hyper intéressant d'essayer de mettre sa voix contemporaine à travers des alexandrins pour essayer de faire passer un message qui nous touche, nous, aujourd'hui, actuellement, quoi.
Et donc, vous êtes... Il y a combien de personnages dans cette pièce ?
Il y en a 9.
Il y en a 9, mais vous êtes que 2 comédiens. Vous jouez avec Quentin Moussourion, c'est ça ? Alors, du coup, comment vous répartissez les rôles ? Vous jouez plusieurs rôles, tous les deux ?
Oui, c'est ça. Donc ça a été vu avec Julia Hamon, donc, qui est notre metteur en scène. Et donc, en général, quand c'est des dialogues, voilà, c'est une fois chacun. Mais on fait autant des rôles de femmes que d'hommes.
Et vous partagez les rôles aussi. Il n'y a pas une personne qui fait Moncade du début à la fin.
Ouais.
Ils alternent. Il y a un code avec des accessoires qu'on présente dès le début, qui sont des accessoires faciles à identifier. Il y a des lunettes, il y a une espèce de tresse à fleurs pour l'amoureuse. Il y a une couronne pour le roi.
Voilà.
Et ils se passent l'accessoire et deviennent le personnage qui tient l'accessoire.
Et donc vous, Eva, en tant que comédienne, qu'est-ce qui change ? Parce que du coup, on l'a dit, c'est une lecture théâtralisée. Donc en effet, peut-être que ça peut faire peur à certains spectateurs. C'est pas la même chose qu'une pièce de théâtre classique, on va dire, avec une mise en scène, une scénographie, des lumières. Qu'est-ce qui change pour vous ? Quel est le plus compliqué à jouer quand on fait une lecture ? Comment vous avez travaillé ça ?
La lecture... moi, je trouve ça intéressant aussi de faire des lectures. C'est vrai que c'est un travail différent. Y a peut-être plus de travail personnel chez soi. Il faut beaucoup la lire et la relire parce qu'on sait que c'est pas du texte, on le connaît pas par cœur. Du coup, on le lit, on a tout le temps les yeux quand même rivés sur notre texte. J'en ai perdu le fil de votre question.
Est-ce que c'est quand même du jeu ?
Oui, bien sûr, c'est quand même du... Bien sûr, oui. Ça reste du jeu.
C'est qu'il y a, il y a une contrainte supplémentaire qui est que vous n'êtes pas totalement libre de faire ce que vous voulez avec votre corps.
C'est ça.
Qu'il y a une partie de vos yeux qui doit regarder la feuille, même si tu as dit que vous gardiez les yeux rivés.
Oui.
C'est pas tout à fait vrai. Vous regardez le public un petit peu et vous vous regardez.
mais on se raccroche au texte.
Mais c'est sûr que même là, il y a plusieurs pupitres. Il y a une mise en espace, mais vous avez quand même des contraintes de je dois être à tel endroit et je peux pas non plus aller trop loin, sinon je vais pas me rappeler c'est quoi la suite de mon texte. Donc c'est sûr que vous êtes contraint physiquement et dans l'espace.
Et vous, Julie, en tant que metteur en scène, comment vous avez travaillé la mise en scène d'une lecture théâtralisée ?
Alors, à travers déjà tous ces petits codes qui seraient les mêmes d'ailleurs dans une pièce de théâtre s'il y avait 9 personnages et seulement 2 comédiens, donc ça c'est vrai que c'est pas spécifique à la lecture. Alors après, c'est des comédiens qui sont déjà à l'aise avec la lecture parce qu'ils l'ont déjà travaillé au sein de leurs études, puisqu'au conservatoire on fait beaucoup de lectures, donc on n'est pas parti de rien non plus. Nous, en fait, on essaye que à l'oreille, ce soit comme aller voir une pièce, qu'ils aient le même engagement émotionnel, la même caractérisation de personnage. Peut-être que la caractérisation est un petit peu plus poussée que si j'avais monté ça avec juste les comédiens. Juste pour qu'on puisse mieux les différencier, vu qu'il y a 9 personnages quand même, il y a besoin d'un petit peu plus de caractérisation pour qu'on puisse les différencier. Mmh. Mais sinon, en termes de jeu, c'est à peu près pareil en fait. L'idée, c'est de réussir à jouer alors qu'on a un texte devant les yeux.
Tu n'as pas précisé qu'il y avait des scènes vraiment strictement jouées.
Oui, j'ai pas précisé. Il y a quelques scènes, 3 ou 4, où du coup les comédiens laissent tomber le texte et ils l'ont appris et ils vous joueront les scènes comme pour de vrai, on va dire. Pour qu'on puisse goûter un petit peu à quoi ça pourrait ressembler si c'était monté en entier et pas en lecture.
D'accord, donc c'est comme si la lecture était une introduction à la pièce, quoi. C'est pas du tout le même travail, en fait.
Il y a vraiment la majeure partie de la lecture, c'est une lecture théâtralisée. Mais il y a quelques scènes jouées. C'est aussi que moi, ce que j'aime bien dans la lecture, c'est que ça re-questionne notre rapport au texte et au public, parce que le texte, il est présent. Et c'est vrai que l'adresse varie quand même un petit peu. Et du coup, j'aimais bien aussi qu'il y ait des petits moments de jeu pour qu'on soit toujours conscient de ce rapport-là entre l'auteur, donc le texte, et les comédiens et le public.
J'avais une petite question moi, en plus. Vas-y. Un peu sur les personnages et l'interprétation. Je me demandais pourquoi vous avez choisi de faire ce glissement où on a un moment que les comédiens et comédiennes n'interprètent pas toujours les mêmes personnages. Pourquoi ça c'était, si j'ai bien compris hein.
Des fois c'est pour des raisons pratiques, parce qu'il y a quand même un rôle principal qui est mon cadre et ça m'intéressait pas qu'il y ait un comédien qui fasse mon cadre et l'autre fasse tous les protagonistes et qui dans certaines scènes se retrouverait uniquement à servir la soupe comme on dit, puis parce que c'est un personnage intéressant et je pense que vous aviez tous les deux envie de le jouer et ça permet aux comédiens de jouer tous les rôles de la pièce, comme ça il n'y a pas de frustrés.
Et vous avez déjà mis en place plusieurs cycles de lecture, c'est pas le premier, mais vous avez aussi dans votre compagnie mis en scène plusieurs spectacles. Est-ce que vous pourriez définir votre ligne artistique,
Jean-Baptiste?
Notre ligne artistique, on pourrait dire que assez systématiquement c'est un travail sur le texte, que généralement on fait des mises en scène assez minimalistes et que du coup il y a essentiellement sur scène un ou des comédiens, un texte et le rapport avec le spectateur. À part ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur notre ligne?
On dit souvent que le théâtre pose des questions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Est-ce que le théâtre pose des questions? Oui, il pose des questions, ouais.
Je ne sais pas si tout le monde se pose une question en allant voir une pièce de théâtre. Parfois, on peut juste y aller pour se faire divertir et ce n'est pas un problème du tout. Après, ça dépend des spectacles qu'on a fait. Il y en a qui posent plus de questions que d'autres, je pense. Il y a souvent des débats après les spectacles. C'est vrai que ça peut mener à discussion, mais c'est pas quelque chose qu'on impose à notre public. Si vous voulez juste vous divertir et rentrer chez vous et ne surtout pas nous parler, c'est possible.
Et beaucoup disent que le théâtre est en tout cas pour le comédien, pour l'artiste, pour le metteur en scène, une nécessité, un besoin. Est-ce que c'est votre cas ou c'est davantage un plaisir?
Un besoin, un plaisir. Bonne question. Moi, je pense que ça me fait plaisir. Je pense que je survivrais si tout à coup le théâtre était interdit. Mais ça me fait beaucoup de plaisir et j'aime beaucoup faire du théâtre. Il y a un petit côté addictif avec l'adrénaline qui saisit le comédien et le metteur en scène avant une représentation. C'est pas tout à fait la même chose quand on est metteur en scène parce qu'on n'a plus tellement de pouvoir sur ce qui va se passer. Mais bon, on ressent quand même le stress et l'adrénaline et toutes les bonnes hormones qui nous récompense des efforts qu'on a
stress,
fait.
Ouais.
Et après, moi j'aime beaucoup la littérature et les textes, donc c'est sûr que c'est un moyen de travailler avec ça. Après, il y a d'autres manières de faire et je pense que je m'en sortirai. Je sais pas pour vous.
Moi, je pense que ça ferait plus partie du plaisir aussi, même si je serais très malheureuse si je ne jouais pas. Mais c'est avant tout, pour moi, le théâtre. C'est un des seuls endroits où je peux être totalement libre. J'ai pas trouvé d'autre endroit où je peux être plus libre que là. Donc, peut-être que ça relève quand même de la nécessité, du coup, parce que c'est important d'être libre.
Et du coup, le cycle de lecture donc, qui s'appelle Pelle, il y a 16, si je ne me trompe pas, 16 comédies classiques sélectionnées et une dizaine de comédiens. Comment vous avez fait pour vous répartir les comédies? Est-ce que c'est selon vos affinités? Eva, pourquoi vous avez choisi par exemple le favori?
Alors, elle n'a pas choisi, c'est moi qui l'aurais imposé.
On a quand même
oui,
dit nos.
Vous avez dit votre avis, je leur ai demandé leur avis pour pas qu'ils soient coincés dans des pièces qu'ils n'aimeraient pas. Bon, j'ai pas eu de requête. J'ai pas eu de nom. Et du coup, je les ai répartis soit en fonction si je trouvais que le duo allait bien marcher, parce que c'est que des comédiens que je connais ou que j'ai déjà vu jouer, que j'ai pas forcément mis en scène, mais que j'ai déjà vu jouer. Et aussi en fonction des pièces, il y en a certaines où il faut savoir chanter, ce que ne savent pas faire tous les comédiens. Du coup, ça, c'est un critère de sélection comme un autre. Hein, et j'ai essayé de les répartir de manière équitable aussi pour qu'ils aient chacun au moins deux pièces.
Voilà. Et alors, est-ce que pour vous, ça a un sens de jouer cette pièce-là, écrite par une femme, le 8 mars, donc Journée internationale des droits de la femme? Est-ce que ça a un sens particulier pour vous?
Bah oui, forcément. Du coup, voilà, à la base, c'était pas, c'est pas, on compte pas la jouer que le 8 mars, que à cette date-là spécifiquement.
C'est un petit peu dommage.
Voilà. Mais oui, c'est sûr que ça apporte du sens et ça fait plaisir de faire découvrir une pièce d'une autrice. Ces gens-là.
Et en parlant du favori, en faisant des petites recherches sur internet, j'ai vu que c'était une pièce parodique qui éclaire avec drôlerie et impertinence, pardon, les mutations d'une société de plus en plus guidée par l'intérêt personnel, la jouissance et le profit. Mm-hmm. On pourrait dire que c'est un peu d'actualité, non ?
Oui, c'est un des critères qu'on a gardé dans la sélection de nos pièces, que ça puisse résonner avec des problématiques qu'on a encore maintenant. C'est ce que Jean-Baptiste expliquait au début. Il y avait par exemple une pièce de L'Arme de Gouche, que c'était sur les différentes rixes entre révolutionnaires, c'est très précis, et ça nous parle pas. Et là, du coup, oui, c'est d'actualité, et c'est une des raisons pour lesquelles on l'a choisi.
Et vous avez écrit du coup un prologue d'intention.
Oui.
Qui met en scène deux comtesses ou deux marquises, je ne sais plus, Jean-Baptiste.
Une comtesse, une marquise, presque.
Et donc, c'est pour. Vous avez écrit cette petite scénette de théâtre, Julie, pour expliquer un peu votre démarche. Je vous propose de l'écouter.
Très bien.
Prologue d'intention. Le théâtre représente un salon élégant chez la comtesse de Sacé-Chouette. À gauche de l'acteur, une table avec des livres et un service à thé. À droite, un secrétaire ouvert avec tout ce qu'il faut pour écrire. La comtesse de Sacé-Chouette finissant de lire un billet.
Eh bien, on m'abandonne une loge à l'Opéra Comique. M'y accompagnerez-vous?
L'Opéra Comique? On dit que la duchesse de Beaucorsage y a ses habitudes. Que donne-t-il en ce moment?
Ne savez-vous pas? Tout Paris ne parle que de ça, ma chère. Il donne les fameuses lectures théâtralisées.
Vous n'auriez pu trouver une activité plus détestable. Rien ne m'ennuie plus que ces lectures qui n'en sont pas.
Mais, marquise, on m'affirme que c'est du goût le plus excellent. Tout Paris, et entre nous certains provinciaux, prétendent que ces lectures sont diablement ludiques. On m'a fortement vanté l'habileté de la dizaine de comédiens qui, en duo, donnent vie à une myriade de personnages, tantôt lisant, tantôt jouant.
Je vois. Puisque c'est vous, je vais peut-être me laisser tenter. Comment se nomme ce cycle?
Il porte le charmant nom de Pelle.
C'est d'un vulgaire.
Ça, par exemple, pourquoi? C'est tout naturel, les pièces données ayant dû être déterrées. Et puisque ce sont des comédies, il s'agit surtout de contrats de mariage et d'histoires d'amour. Voilà l'explication du nom, c'est tout simple, vraiment.
Vous voudrez bien m'apprendre les liens qui unissent les amours et les pelles, chère comtesse? Car il semble qu'encore une fois, vous voici bien supérieure.
Comment? Vous ne savez pas? Se peut-il? C'est une pratique amoureuse qui a fait scandale à la cour de l'impératrice Elisabeth lors de la dernière saison des bals. Ça a fait un bruit.
Vrai? En quoi cela consiste-t-il? Est-ce une de ces danses où l'on se tient terriblement près de son cavalier?
En quelque sorte. C'est un peu comme jouer à la cligne-musette avec la langue.
Quelle audace! Ne me dites pas, très cher, que les comédiens vont s'y adonner sur scène, offrant aux yeux de tous?
Ce n'est pas indiqué dans le programme. Bon, il faudra aller voir pour le savoir.
Merci Eva. Merci Eva, merci Jean-Baptiste et merci Julie. Rendez-vous donc le dimanche 8 mars à la médiathèque Toussaint à 15h30 pour cette lecture du favori de Madame Villedieu. C'est gratuit, mis en scène par Julie Amand, interprété par Eva Besnier et Quentin Mousserion de la compagnie Il est doux de faire les fous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
Et je profite pour dire aussi qu'on pourra voir la devise que vous nous avez mise en scène le 18 mars à 20h30 au 4.
Tout à fait.
L'espace culturel de l'Université d'Angers. Voilà, avec Tréto en scène. Et maintenant, on va écouter Christine and the Queen.
It's true that people have been sad. People have been sad. It's true that people have been gone. People have been gone. It's true that people have been missing out.
Christine and the Queen qui est revenue avec deux EP complètement surprise. Vous êtes à l'écoute de l'oreille curieuse sur Radio G et maintenant on va retrouver la chronique d'étoiles plein les yeux dédiée au cinéma avec Margot. Bonjour Margot.
Bonjour Anne-Lie et bonjour à toutes et tous. Eh bien, je reviens ce soir à ce micro pour vous embarquer dans l'univers d'un film à partir de quelques extraits.
Et où est-ce que tu nous emmènes ce soir ?
Eh bien, vu le climat de virus ambiant, j'aurais pu vous parler des films Psychose ou même Soupçon. Mais finalement, j'ai choisi une autre œuvre du grand Alfred Hitchcock, L'ombre d'un doute. Ce soir, destination Santa Rosa, en Californie, au début des années 1940. Le directeur artistique du film, Robert Boyle, nous plante le décor.
Santa Rosa, c'était un petit village endormi. Le genre de ville sans caractère géographique particulier, qui à cette époque représentait toute l'Amérique. C'était ce qui attirait Hitchcock. Il voulait essayer d'extraire l'essence de la vie américaine, la vie provinciale, innocente.
Car l'ombre d'un doute, Shadow of a Doubt en VO, est l'un des tout premiers films de la période américaine de Hitchcock, réalisateur britannique, appelé à Hollywood par le grand producteur David O. Selznick. Alors écoutons dès maintenant un premier extrait du film, la fin du générique début et la scène d'ouverture. Les dernières mentions du générique apparaissent sur l'image de couple qui valse en habit de soirée, emporté dans une ronde insouciante qui semble d'un autre âge. La séquence s'estompe progressivement pour laisser la place à un plan en extérieur qui présente les abords d'une ville, bordée par un cours d'eau qu'enjambe un large pont métallique. On devine une voie ferrée au-dessus. Nouveau plan plus rapproché de la ville, avec la silhouette au loin des gratte-ciels et la voie ferrée que la caméra suit toujours. Le plan suivant nous installe dans une rue large et sans voiture. Des gamins jouent à la balle sur le bitume. La caméra s'approche d'un des bâtiments et l'on distingue une enseigne.
Rooms.
C'est une pension. Gros plan sur une fenêtre de l'immeuble, depuis la rue. Avec le plan suivant, nous pénétrons à l'intérieur. La caméra s'approche d'un lit. Un homme est allongé dans la pénombre, les yeux clos. La caméra zoome sur son visage, puis poursuit son exploration avec la table de nuit, où apparaissent en gros plan des billets de banque.
Entrez.
Monsieur Spencer, je voudrais pas vous déranger, mais j'ai pensé devoir vous dire que deux hommes sont passés, qui ont demandé à vous voir. Un plutôt jeune et l'autre plus âgé.
Une petite minute. Il n'en faut pas plus à Hitchcock pour planter le décor, camper son personnage principal et instiller troubles et mystères. Reprenons la séquence. Les premiers plans présentent la ville. D'abord sa périphérie, en deux plans très larges, puis on pénètre dans une rue, et l'image se resserre sur un immeuble, et enfin, une chambre en particulier, en plan de plus en plus serré, jusqu'à aboutir à un gros plan sur le visage du héros. Ce double mouvement d'entonnoir, qui conjugue espace géographique et valeur de plan, donne l'impression au spectateur de pénétrer progressivement dans la psyché de l'homme sur le lit. Qu'apprend-on sur lui ? Il est seul, sans doute vénal, et probablement recherché par la police. Le méchant idéal.
Plus réussi est le méchant, plus réussi sera le film,
disait Alfred Hitchcock. Le réalisateur Arnaud Desplechin précise.
Hitchcock pensait qu'un méchant devait être à la fois fascinant, dangereux, séduisant, terrifiant.
Dans L'ombre d'un doute, celui-ci est interprété par Joseph Cotten, célèbre pour ses rôles dans les films de Orson Welles. Avec son visage charmeur, Cotten réussit le tour de force de rendre son personnage de fugitif attachant, quand bien même dès la première séquence, on en devine la noirceur. Cette ambiguïté du mal est présente dès le titre. Qu'est-ce qu'une ombre si ce n'est un précipité d'obscurité dans la lumière ? Écoutons maintenant un nouvel extrait du film. En fuite, le héros envoie un télégramme à sa sœur, qui habite Santa Rosa, pour lui annoncer sa visite. Il signe sa missive « Oncle Charlie ».
Santa Rosa, Californie.
Plan panoramique sur une ville ensoleillée, puis plan large sur une rue animée. Un agent de la circulation fait traverser des piétons. L'homme est débonnaire et souriant. L'image suivante nous montre une maison ancienne, au bord d'une rue calme. La caméra se rapproche et s'arrête sur une fenêtre, en surplomb du porche. L'ombre d'un arbre troue la vitre bordée de rideaux de dentelle. Nous pénétrons dans une chambre lumineuse. Une jeune fille est allongée sur son lit. La caméra s'approche d'elle. Elle a le visage boudeur. Après Oncle Charlie, voici sa jeune nièce, Charlotte, surnommée elle aussi Charlie. Cet écho des prénoms, loin d'être anecdotique, se traduit dans la mise en scène. L'extrait que nous venons d'entendre renvoie dans sa construction au précédent. Seule variation, la lumière. Car si la chambre du fugitif était dans la pénombre, celle de la jeune innocente est en pleine lumière, comme si Hitchcock voulait nous signaler que ces personnages homonymes étaient deux facettes, lumineuses ou obscures, d'un même tempérament.
Hitchcock aimait l'idée d'introduire la menace au sein d'une petite ville.
Explique sa fille Patricia. Nous y voilà avec ce nouvel extrait de L'ombre d'un doute. La musique guillerette traduit l'excitation de la famille venue accueillir l'oncle à la gare. Le quai est écrasé de lumière. Le train arrive depuis le fond de l'écran. La locomotive dégage une épaisse fumée noire qui imprègne le ciel clair. Quand elle s'arrête en gare, son ombre envahit subitement le quai et recouvre la famille. Par ce jeu de lumière et de contraste, le réalisateur donne à voir
la menace qui s'introduit au sein d'une petite ville.
La séquence suivante nous détaille cette menace. À l'image, l'oncle descend péniblement du dernier wagon, aidé par d'autres voyageurs. La jeune Charlie s'étonne de cette silhouette claudiquante et courbée qui s'appuie sur une canne. Sitôt le train parti, oncle Charlie se redresse, sourit en reconnaissant sa nièce et marche vers elle avec entrain. Le visage de sa nièce passe rapidement de l'effroi à la joie. Et le mouvement du film sera à l'inverse, dépasser la joie innocente pour retrouver l'effroi salvateur.
Charlie.
J'ai eu peur en te voyant de loin, je t'ai cru malade, Anna.
Malade?
Mais tu n'as rien à ce que je vois. Il est là, papa, regarde. Et c'est drôle, je t'assure, tu avais l'air vraiment souffrant en descendant ce train.
Oh, moi que non. Bonjour Joe, comment vas-tu? Tu ne changes pas.
Salut, t'as une mine superbe.
Roger. Salut Anne, tu ne parais pas me reconnaître.
Si, je me souviens de toi, seulement tu as quelque chose de différent.
Bon, eh ben on va y aller, le repas d'Emmy doit être déjà prêt, je parie. J'ai pas pu la convaincre de venir à la gare son dîner avant toute chose. Allons-y Roger, prends un sac. Non, non, laisse-moi ça, Charles, je vais le prendre.
Merci.
De rien, la voiture n'est pas loin.
La petite troupe repart. Tous portent un bagage, sauf l'oncle Charlie, qui marche en retrait. Sa canne est devenue un accessoire élégant, signe extérieur de richesse et de domination. Les autres personnages quittent l'image et la caméra le suit bientôt seul, en plan large.
J'essaye de raconter une histoire dans un style très visuel et cinématographique. Savez-vous quel effet me procure un film où il y a trop de dialogue ? Celui de photos de gens qui essayent de parler,
disait Alfred Hitchcock. La séquence que nous venons d'écouter est exemplaire de ce point de vue. Peu de dialogue, mais la tension est à son comble pour le spectateur qui a déjà perçu, visuellement du moins, l'irruption de la menace. De là découle le suspense pour Hitchcock, du décalage entre ce que le spectateur sait et ce qu'ignorent les personnages. Écoutons à présent un nouvel extrait qui illustre cette conception du suspense, puisque pour le spectateur, l'échange qui va suivre n'a pas le même sens que pour le personnage de la jeune Charlie. Après le dîner, oncle Charlie offre à tous de luxueux cadeaux. Il termine par sa nièce, qui l'a rejointe dans la cuisine. Alors que les dialogues soulignent la dévotion de la jeune femme pour son oncle, le début de la scène est entièrement tourné en chant contre chant, c'est-à-dire que les deux Charlie n'apparaissent jamais ensemble à l'image, comme pour souligner, visuellement, le double sens des propos de la jeune femme.
Oh, ne me fais pas de cadeaux, ça ne peut que gâcher les choses.
Tu es une curieuse fille, Charlie. En quoi cela les gâcherait-il?
Oh, parce que nous sommes autre chose qu'oncle et nièce. C'est plus que cela. Je te connais bien. Je sais que tu ne racontes pas beaucoup de choses aux gens et je suis assez secrète aussi. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que personne ne connaît, logé au plus profond de toi-même.
Tu voudrais dire comme un secret?
Comme un secret merveilleux, oui. Et je le découvrirai.
On est parfois déçus par ce qu'on trouve.
Mais nous sommes des jumeaux, en quelque sorte. Il faut tout savoir l'un de l'autre.
Donne-moi ta main, Charlie.
Les deux Charlie sont à présent face à face dans l'image. L'oncle attire sa nièce à lui, à mesure que la caméra se rapproche d'eux. Il glisse une bague à son doigt.
Merci, oncle Charlie.
Tu ne l'as même pas regardé.
Je n'ai pas à le faire. Quel que soit ton cadeau, il me plaît tout autant.
Jette tout de même un coup d'œil. C'est une émeraude. Une vraie émeraude. Je trouve que c'est une des plus belles choses au monde.
Charlie retire la bague et l'observe à la lumière. Soudain, son visage montre de l'étonnement.
Tu as fait graver quelque chose à l'intérieur, il y a une inscription.
Non, mais je peux le faire si tu veux.
Oh, mais s'il y a quelque chose, c'est à moitié effacé. T.S. de la part de B.M. Mais ce ne sont pas du tout nos initiales.
Alors le bijoutier m'a roulé, il m'a vendu de l'occasion.
Oh, c'est sans importance.
Donne-la-moi, je le ferai.
Non, c'est très bien comme ça. Cette bague a sans doute rendu une personne heureuse. C'est parfait, ainsi je te dis. Oh, tiens, tu veux bien prendre la cafetière ?
Charlie sort du cadre et la caméra nous montre le visage fermé de son oncle. Apparaît alors la séquence de bal du générique début. Souvenir coupable, mauvaise conscience ?
Je prends des gens normaux et je les place dans des situations anormales. Sous un certain éclairage, l'objet le plus familier peut devenir terrifiant. Il en est de même des hommes. Plus l'homme est normal et l'objet familier, plus leur transformation provoque l'inquiétude.
L'ombre d'un doute n'échappe pas à cette maxime du maître du suspense. À mesure que le film se déroule, l'inquiétude grandit, d'abord uniquement dans l'esprit du spectateur, puis portée aussi par Charlie, que plusieurs rebondissements poussent à s'interroger sur l'identité de son oncle chéri. À ressentir l'ombre d'un doute, justement. À l'écran, cette prise de conscience est subtilement traduite par le jeu de Teresa White, qui incarne Charlie. Ainsi, quand le spectateur la découvre sur son lit, c'est une jeune fille boudeuse qui s'ennuie. Mais à la fin du film, elle est devenue une jeune femme courtisée par un inspecteur de police. Entre-temps, son visage s'est affermi, sa démarche est devenue déterminée et ses robes plus féminines. Comme si le film, en montrant la fin de l'innocence et de l'aveuglement, faisait un parallèle avec le passage de l'enfance à l'âge adulte. Le dernier extrait que nous allons écouter est le moment de basculement pour Charlie. De cette pure séquence de suspense, orchestrée par la musique, nous n'écouterons que la fin. Il est presque 21h, il fait nuit, et Charlie se rend à la bibliothèque afin de vérifier une intuition. La bibliothèque est dans la pénombre. Charlie se presse le long des rayonnages. Elle arrive devant les journaux. La lumière se fait, comme pour signaler l'imminence de la vérité. Charlie trouve enfin l'exemplaire qu'elle cherche et s'approche d'une table pour le lire.
C'est vraiment affreux. Il va voir. Je vais lui prouver que ce n'est rien du tout. Voyons, qu'est-ce qui manquait ? Où est passé le tueur de veuves joyeuses ? Chasse à l'homme dans tout le pays pour l'étrangleur des trois femmes fortunées. Celui que l'on appelle le tueur de veuves joyeuses continue à déjouer les recherches lancées d'un bout à l'autre du pays. L'homme non encore identifié a réussi à passer à travers un cordon tendu autour des États du Nord-Est. On s'attend à son arrestation d'un jour à l'autre. Les inspecteurs traquent actuellement deux hommes. Ils sont certains que l'un d'eux est l'assassin. Le fait que toutes les victimes étaient de riches veuves a conduit la police à le désigner comme le tueur de veuves joyeuses. Sa dernière victime était Madame Veuve Rose Matthewson, actrice célèbre en son temps sous le nom de Thelma Shenley.
La caméra nous montre le visage horrifié de Charlie, puis sa main ornée de la bague.
Thelma Shenley, Rose Matthewson. La déesse de la part de BM.
La caméra quitte la main de Charlie et s'élève progressivement au-dessus de la jeune femme, seule dans la bibliothèque. À mesure qu'elle s'éloigne, elle dévoile en plongée l'ombre grandissante de Charlie, écrasée à l'image comme dans l'histoire par sa découverte. Comme le notait Hitchcock,
en élevant la caméra, vous montrez l'espace vide autour de votre personnage, et donc, d'une certaine façon, vous soulignez l'impression de solitude ressentie dans un tel moment.
La séquence se clôt sur les images du bal du début, qui prennent à présent un nouveau sens.
Si vous observez votre oncle adoré suffisamment longtemps, vous finirez par découvrir quelque chose sur lui.
L'ombre d'un doute a été tournée en 1942. Le grand critique de cinéma Jean Douché n'hésitait pas à faire un lien entre le charme vénéneux de cet oncle mystérieux qui débarque dans une famille provinciale et l'avènement, un temps populaire, du nazisme. Ce que montre le film, c'est comment le mal, de façon insidieuse, peut s'introduire dans la société victime de son innocente crédulité. Mais Hitchcock indique aussi, par le personnage de la jeune Charlie, que nous pouvons tous réussir à ouvrir les yeux et résister.
L'ombre d'un doute, un film réalisé par Alfred Hitchcock, est sorti en salle en 1943.
Le film est disponible en vidéo à la demande sur plusieurs plateformes, ainsi qu'en DVD et en Blu-ray, éditeur Universal International Pictures.
Merci beaucoup Margot. On se retrouve dans deux semaines pour la prochaine chronique dédiée au cinéma d'étoiles plein les yeux. Et elles sont toutes en podcast sur le site internet de Radio G au www.radio-g.fr. Vous recherchez d'étoiles plein les yeux, vous allez tout trouver. L'émission est finie pour ce soir. Elle a ses podcasts aussi, mais je ne vais pas vous redonner l'adresse. C'était l'oreille curieuse. Lundi, exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission. Voilà, notez bien, vous serez peut-être triste et un peu moins accompagné à 18h10, mais nous serons de retour mardi avec le THV. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end. Et est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait oubliées? Non, c'est tout. Bon, bah tout est dit. Et à 19h, vous allez retrouver Solidaire Monde. Bonne soirée, à mardi.
5 FM.